Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver. Alors, Denis Lacroix est notre invité aujourd'hui. Denis, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous venez de quitter pour une retraite qui est déjà bien chargée. En rendez-vous, les laboratoires d'Ifremer. Vous retrouvez donc une parole libre, bien que personne à Ifremer n'ait jamais bloqué vos propos de prospectiviste. Devenu secrétaire général du Plan Bleu, désormais, vous deviez nous décrire aujourd'hui les futurs scénarios pour la Méditerranée auxquels vous travaillez. Nous avions annoncé un petit peu cela dans notre dernière émission. Et puis, la communication, la publication en sont remises à début janvier. Donc, on y reviendra ensemble et profitons de votre présence pour évoquer les préoccupations qui furent les vôtres durant tout votre parcours de chercheur, à savoir l'aquaculture et la pêche. Alors, commençons par la pêche. Alors, bien sûr, vous étiez à Ifremer. Et Ifremer est un institut français qui est entièrement consacré à l'océan, sous une double tutelle, celle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il va être au premier rang pour cette décennie qui a été déclarée décennie de la mer, 2020 à 2030, avec un point d'orgue pour tous les Méditerranéens. Un que nous sommes, la rencontre onusienne UNOC 25 du 6 au 13 juin prochain à Nice. On verra plus tard que ce sera bien plus long que cela. La devise d'Ifremer, mieux connaître pour mieux gérer. Une de ses missions, connaître donc, évaluer, mettre en valeur les ressources des océans et permettre leur exploitation durable. Alors, je ne vais pas vous demander si Ifremer fait bien son travail. Ce n'est pas pour cela que vous êtes là aujourd'hui. Donc, vous êtes expert. Que pensez-vous de l'état dans lequel se trouve notre pêche et nos océans aujourd'hui ?
Eh bien, d'abord, merci de m'avoir invité, Dominique. C'est toujours un plaisir de venir parler des océans. D'abord, il faut que je rappelle que je ne suis pas expert dans tous les domaines aquatiques, hein, et pas, je suis plus spécialisé en aquaculture qu'en pêche. Mais bon, c'est vrai qu'au bout de 40 ans dans le domaine, j'ai pu rencontrer beaucoup d'experts et voyager pas mal et lire aussi beaucoup ce qui se passe dans le domaine. Alors, je crois qu'il faut d'abord considérer une chose importante, c'est que on est passé d'une situation où la pêche était le principal pourvoyeur de protéines aquatiques, hein, de produits de la pêche,
nourriture, donc.
Voilà, de nourriture issue de produits aquatiques, à une situation où elle est devancée par l'aquaculture. Donc on peut dire qu'à l'époque où je faisais mes études, il y avait 70 millions de tonnes de pêche et 5 millions de tonnes d'aquaculture. Aujourd'hui, c'est 85 millions de tonnes de pêche et 90 millions de tonnes d'aquaculture. Donc vous voyez, ce qui est très important, c'est de voir que l'aquaculture est devenue, a le même poids aujourd'hui que la pêche. Donc c'est très important de considérer les deux en même temps.
Mais on va revenir sur l'aquaculture. Ce que je voudrais savoir quand même un petit peu, c'est qu'on fasse une petite analyse de ce qu'a été la pêche dans ces dernières années. On a vu qu'il y a eu des excès quand même. Enfin, ça a été dénoncé par de nombreuses associations, dont Bloom, qui s'en est fait le porte-parole. Mais, enfin, chez nous, en France. Mais c'est vrai qu'un peu partout, on a vu des choses à dormir debout. Enfin, quand on voit, par exemple, qu'on pille les eaux du Sénégal pour y prendre du poisson qu'on va transformer en farine pour alimenter soit les bovins, soit l'aquaculture, justement. Enfin, il y a quelque chose là qui ne va pas. De la même manière, quand on voit le chalutage en eau profonde ou la pêche électrique, ce sont des choses qui ont été largement dénoncées et sur lesquelles on n'avance pas beaucoup en termes d'interdiction. Est-ce qu'on va y arriver, à votre avis ?
Alors, c'est en fait un défi parce que on se rend compte qu'on est en train d'arriver aux limites de la productivité naturelle de l'océan. On pensait que c'était inépuisable, et puis quelques pêcheries se sont effondrées, la plus célèbre étant celle de la morue, hein, qui ramenait 1 million de tonnes par an, ce qui est considérable. Et puis,
alors, c'était à Terre-Neuve, je rappelle, c'était
voilà,
à Saint-Pierre.
C'est au large du Canada, c'est ça. Et il y avait de nombreux bateaux français, d'ailleurs, qui participaient à cette pêcherie.
Vous savez, j'ai fait un documentaire sur ce sujet. Et à l'époque où j'avais été, on commençait à voir diminuer effectivement la morue. Et les chalutiers, enfin les patrons de bateaux nous disaient « Oh, mais c'est pas grand-chose, c'est le réchauffement climatique. De toute façon, la morue, c'est des poissons, ils ont une queue, c'est pour s'en servir. » Donc, ils vont ailleurs. Résultat, ils ont disparu du coin.
De la zone.
Oui. Ils ont disparu de la zone et ils ont été remplacés par les méduses. Et ils n'ont jamais pu retrouver leur place.
Oui, et beaucoup d'autres espèces. Ce qu'il y a, c'est que les écosystèmes évoluent. Ils évoluent d'ailleurs partout dans le monde. Mais la pression de pêche peut, à certains endroits, faire disparaître la masse critique des reproducteurs. Hein, et donc, à ce moment-là, le stock se déplace ailleurs ou disparaît. Alors, c'est très rare qu'une espèce disparaisse complètement parce que la mer est grande. Hein, et puis, c'est pour ça qu'il faut faire attention au terme d'extinction des espèces. Hein. Ça arrive dans des écosystèmes particuliers. En haute mer, ça n'arrive pratiquement jamais. Alors, ce qui est important de voir, c'est qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, un tiers de toutes les espèces pêchées, il y en a des centaines dans le monde, hein, sont en situation de surexploitation. Mais ce qui est inquiétant, c'est que cette proportion augmente. Elle augmente lentement, mais qu'elle continue à augmenter. Donc la proportion de stocks pleinement exploités à un niveau théorique de durabilité est en train de diminuer.
Alors pourtant, on a mis en place un certain nombre de mesures, comme les TAC, comme les quotas, enfin, ou même les périodes de droit à pêcher. Et alors, est-ce que c'est parce qu'on les a mis trop tard? Il était déjà trop tard ou est-ce que ça ne sert à rien?
Non, pas du tout. Ça sert, c'est efficace, à condition d'être respecté. La grande difficulté, c'est ça. C'est qu'on peut toujours faire des lois, des réglementations, des normes, etc. Mais si vous n'avez pas les moyens du contrôle derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, quand on met les moyens, ça marche. Je vais vous donner un exemple tout simple. La pêcherie de thon rouge, par exemple, en Méditerranée, menacée non pas d'extinction, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. En plus, le thon, c'est une espèce qui voyage beaucoup et qui est très prolifique. Mais simplement de déplétion, enfin de réduction du stock, a été enrayée par des mesures extrêmement sévères et sérieuses étendue à l'ensemble des pays de la Méditerranée, en distribuant des quotas très sévères et surtout en contrôlant ce qui se passait. Donc, on est passé d'une pêche largement, enfin en partie illégale, donc ce qui expliquait le fait qu'on n'arrivait pas à contrôler les stocks, à une pêche contrôlée de très près. Et résultat, au bout d'une quinzaine d'années d'efforts, eh bien, à nouveau, les thons sont redevenus abondants. Comme quoi, une politique rigoureuse, eh bien, peut porter ses fruits.
Donc, il faut. C'est pas seulement. J'ai un peu envie de dire une phrase au bas d'un parchemin. Il faut aussi des moyens pour essayer de voir que cette loi soit bien respectée. Alors, par exemple, c'est une des mesures. Enfin, on parle beaucoup dans les prochains mois des fameuses aires marines protégées. On en a parlé d'ailleurs à Cali. On en reparlera beaucoup puisqu'il s'agit de protéger à peu près 30% de l'océan. On sait que là, il y a une controverse puisqu'il y a des partisans, enfin des ONG qui veulent qu'on protège 100% de l'océan et qu'on ait seulement quelques pourcentages pour les aires marines protégées. Et puis, il y a ceux qui sont partisans de au moins protéger les 30%. Mais ces aires marines protégées, elles sont décriées parce qu'il y a certains endroits, elles sont sur le papier seulement.
Oui, alors on revient finalement au problème précédent, c'est-à-dire que c'est très bien de décréter qu'une zone est protégée, encore faut-il qu'elle le soit réellement. Or, on s'aperçoit, en regardant ce qui se passe réellement dans ces zones, que malheureusement, pour des raisons d'ailleurs d'interprétation un peu ambiguë des textes, eh bien, il continue à y avoir du chalutage industriel dans des zones qui normalement devraient être protégées.
Alors évidemment, on a des exemples de lieux, par exemple, où c'est
oui,
pas...
Oui, le long de la côte Picarde, par exemple, la côte d'Opale, etc. Donc là, on sait qu'il y a des... On les a identifiés, on en connaît leur nombre. Donc c'est des gros chalutiers qui font de 80 à 100 mètres.
Et c'est des chalutiers qui viennent d'où?
Alors, ils viennent de...
Beaucoup... On ne sait pas où, parce qu'ils ont un...
Alors, si, ils sont bien identifiés. On peut d'ailleurs les observer à partir d'un simple avion, hein, puisqu'ils sont dans les eaux territoriales françaises. Hein. Et donc, on peut les identifier. Mais ils sont détenus par des armements souvent étrangers, notamment néerlandais. Et donc, il est difficile. D'abord, il faut poser une infraction. Il faut prouver qu'ils pêchaient là. Il faut prouver qu'ils sont éventuellement en dehors des quotas. Et donc, c'est compliqué. Mais par rapport à la petite pêche artisanale, bon, qui, elle, est pourvoyeuse de beaucoup plus d'emplois, finalement, et respecte beaucoup mieux la ressource, c'est vraiment le combat du pot de terre contre le pot de fer. Donc, en fait, le danger, c'est finalement de laisser faire l'industrialisation de la pêche partout, au lieu d'essayer de garder des zones, des AMP, donc des aires marines protégées, de la protection forte, comme on dit, hein, avec des systèmes de contrôle. C'est un petit peu toujours la même chose, c'est-à-dire que signer des accords, faire des cartes, c'est bien, mais derrière, il faut qu'il y ait la volonté de faire respecter ces accords. Et là où ça se passe bien, c'est quand il y a un contrôle de l'ensemble des acteurs et que la plupart du temps, eh bien, on s'aperçoit que la ressource revient, la biodiversité revient, les habitats se reconstituent, etc. Donc, c'est finalement gagnant-gagnant en dernier ressort.
Alors, moi, je suis assez étonnée parce qu'on a tendance toujours à accuser la Chine de finalement piller nos fonds. Et là, vous venez de citer les Néerlandais. Pourtant, les Néerlandais sont dans l'Europe. Hein. Donc, ils devraient respecter encore plus. Hein.
Oui, alors, mais c'est le problème du respect des lois dans, d'abord, c'est les eaux nationales, la ZEE, et puis ce qui a été décidé collectivement. L'avantage de ce qui s'est passé à propos du thon, c'est que ça a été fait à l'échelle de la Méditerranée. Donc, il ne faut pas seulement raisonner à l'échelle d'une zone sous juridiction de tel ou tel pays. Il faut raisonner à l'échelle d'un écosystème. Et l'écosystème, évidemment, ignore complètement les frontières. Donc, il faut que ces mesures aient du sens. Et puis, il faut rajouter à ça le fait que la technologie a permis aussi de beaucoup mieux identifier les poissons. Donc, ils ont beaucoup moins de chances d'échapper au filet, hein, puisqu'on les identifie de manière de plus en plus précise. On peut les suivre à la trace, estimer leur biomasse, etc. Donc, la technologie, en augmentant finalement la puissance
des radars, etc.
Voilà, les sonars, hein, qui ont des radars sous l'eau, voilà, permettent effectivement d'augmenter finalement la productivité des bateaux. Et puis, un dernier élément, c'est le changement climatique qui touche les océans et, bien sûr, et notamment les mers côtières, et donc modifie des systèmes de recrutement depuis le phytoplancton, zooplancton, jusqu'aux animaux les plus grands. Donc aujourd'hui, on observe un déplacement progressif des espèces vers les latitudes élevées. Et donc, il faut s'adapter à ce type de modification. D'où la tentation de compenser finalement un peu la qualité par la quantité en voulant absolument donc faire tourner des outils, des navires-usines qui ont besoin de rentrer des milliers de tonnes pour être rentables.
Alors, avant de passer à votre autre dada qui est l'aquaculture, je voudrais profiter quand même du fait que, alors là, c'est pas vous, c'est moi, mais que vous ayez cité les Finlandais, enfin les Néerlandais, je rappelle quand même que notre commandant Watson est prisonnier et a fêté hier ses 74 ans. Et c'est inadmissible. Je rappelle que ça a été quand même notre héros, celui qui a obtenu le fait qu'on discute de la pêche à la baleine. Et aujourd'hui, cet homme de 74 ans qui a toujours combattu pour la mer risque d'être extradé au Japon et de mourir. Parlons maintenant d'aquaculture. Alors, au début de votre carrière, avant de faire de la prospective, vous suiviez pour Ifremer l'élevage de chevrettes en Guyane. Alors, ce fut un échec?
Alors, les chevrettes, il faut bien voir que ce n'est pas des petites chèvres. Hein. Ce sont des crevettes géantes d'eau douce qui viennent de Malaisie. Et donc, on a pensé qu'on pourrait les élever là-bas, comme on a fait pour ça avec les crevettes de mer en Équateur. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a d'immenses terrains et de l'eau douce en quantité. Donc, ça aurait été, a priori, un potentiel de développement important. Alors, ça a été un échec pour des raisons, en fait, de marché. Donc, on dit souvent que pour développer l'aquaculture, la première chose dont vous avez besoin, c'est d'avoir un marché. Ensuite, vous regardez si vous avez une espèce qui intéresserait ce marché et si vous pouvez l'élever. Et c'est dans cet ordre-là qu'il faut poser la question. c'est pas de dire je sais élever une espèce, au fait comment je vais la vendre. Alors la difficulté c'est que la Guyane est un tout petit territoire hein, et donc il n'y avait pas de marché local au-delà de 50 tonnes. Or il y avait une ambition de développer à une échelle importante, au moins plus de 100 tonnes en tout cas. Donc qu'est-ce qu'on allait faire de ce qui allait dépasser le marché local?
Pourtant sur ce marché-là, tous les pays asiatiques ont pris la main.
Oui, mais eux, ils exportent en congelé. Donc, nous, on ne peut pas être compétitifs avec des produits exportés du Vietnam, hein, ou de Chine, ou de Thaïlande. Donc, on arrivait avec un produit qui était une fois et demie plus cher que le reste du monde. Donc, dans ces cas-là, dès que vous exportez en congelé, vous ne pouvez pas être compétitif. Donc, il y a eu pas mal de travaux pour essayer de savoir comment on pouvait s'en sortir. Et on envisageait de l'envoyer en frais en avion. Alors vous imaginez le bilan carbone, hein, on peut s'interroger, mais à l'époque on ne s'interrogeait pas là-dessus, hein, c'était dans les années 80, et donc on a quand même essayé ce circuit-là, qui a fonctionné, puisque en frais ça se vendait à peu près deux fois le prix du marché au congelé, mais qui comportait beaucoup trop d'aléas, c'était une chaîne logistique extrêmement difficile à maintenir, donc finalement ça a été abandonné. Donc c'est un peu un regret, et en même temps c'était une aberration économique et pas écologique, parce qu'effectivement cette bestiole s'est très bien développée là-bas, mais on n'avait pas de marché suffisant. Et c'est autour de nous, il y a des marchés, enfin il y avait le Brésil qui lui évidemment n'a pas du tout le même niveau de vie, donc c'était pas intéressant de développer cette filière à cet endroit-là.
Mais justement, est-ce que la France est capable de tirer des leçons de ces échecs, hein?
Oui, heureusement. Donc on cherche dans ces cas-là à savoir quelles seraient les espèces qui auraient un vrai marché. Alors la difficulté, c'est qu'en France, on est très bon en général au point de vue de la technologie, de la formation des personnes et de la mise au point de tout ce qui est nécessaire pour développer l'élevage à grande échelle, notamment la phase d'écloserie qui est assez sophistiquée comme phase. Mais ensuite, il faut trouver des terrains et des espaces. Et c'est là où c'est difficile parce que nous ne sommes pas le premier pays touristique du monde pour rien. Au bord du littoral, on préfère privilégier le tourisme plutôt que d'avoir des cages à poissons comme on le trouve par exemple dans les fjords de Norvège ou dans les baies asiatiques.
Oui, alors donc en fait, la France tire plutôt tout son aura, toute sa puissance du fait qu'elle possède énormément d'espaces maritimes.
Oui, absolument. Donc on a 5500 km de côte rien que dans l'Hexagone. Donc a priori, on pourrait se dire il doit bien y avoir des sites. Mais en fait, quand on regarde de près, il n'y a pas énormément de sites disponibles parce que la plupart des maires ne souhaitent pas avoir des structures visibles de la côte utilisées à des fins d'aquaculture.
La France a un énorme pouvoir. Grâce à ses territoires d'outre-mer, elle règne sur plus de 10 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. La plus vaste zone exclusive du monde avec celle des États-Unis.
En l'espèce, nous sommes la deuxième puissance maritime mondiale. Et donc quand la France s'engage sur ces espaces maritimes, cela a un impact au niveau de la planète tout entière.
Exemplaire la France ? Voyons voir. Elle a commencé à protéger les océans il y a presque 20 ans déjà. Notamment grâce à ce haut fonctionnaire, aussi à l'aise dans la langue bretonne que dans le maquis administratif. Olivier Laroussini fut le premier directeur de l'Agence des aires marines protégées françaises.
La direction de l'Agence des aires marines protégées, c'est un truc complètement fou. Enfin, c'est un moment où il y a une vraie décision de politique avec des moyens qui sont mis en place et où partant de quasiment rien, on vous dit bah voilà, faut développer un réseau d'aires marines protégées. Et c'était vraiment une chance extraordinaire.
C'était surtout une urgence. Alors que la pollution ravage les océans depuis des décennies et qu'un tiers des stocks de poissons que l'on consomme sur la planète sont massivement surpêchés, le monde commence enfin à réfléchir à la protection des océans. Le premier congrès mondial sur les aires marines protégées se tient à Geelong, en Australie. Mais là, tout le monde s'interroge. Où est la France? Where are the French?
Il n'y a pas de Français, quasiment pas. Mais il y en a un ou deux, et ça suffit peut-être en fait à déclencher les choses. on invente les parcs naturels marins. Et puis on fait une loi pour ça.
Qui est avide de l'adopter.
Cette loi, elle est votée à l'unanimité.
Qui est d'un avis contraire.
C'est quand même pas rien.
Le texte est adopté.
Et dans la foulée, le premier parc naturel marin français voit le jour, dans la mer d'Iroise, en Bretagne. Ce parc devient le modèle à suivre, la référence. L'idée, c'est de protéger tout le monde. Les homards, les dauphins, le phoque gris, tout en laissant les pêcheurs travailler. Mais est-ce vraiment possible de contenter tout le monde ? En tout cas, cette protection à la française se généralise 2 ans plus tard, avec le Grenelle de la mer. Cette fois, les ONG environnementales sont invitées.
La pêche actuellement, telle qu'elle est pratiquée à peu près partout dans le monde et en France aussi, n'est pas durable pour des questions de techniques de pêche qui sont trop destructrices et aussi pour un prélèvement qui est supérieur à ce que la nature peut donner. Donc c'est simplement une équation qui ne tient pas la route.
Autour d'Olivier Laroussini, les ONG vont convaincre Jean-Louis Borloo, alors ministre de l'écologie, de protéger 20% de l'espace maritime français d'ici à 2020. Dont la moitié, 10%, interdite à la pêche.
La dynamique, elle est excessivement positive, elle est enthousiasmante.
4 ans plus tard, c'est carrément l'euphorie. La France accueille le 3e congrès mondial des aires marines protégées à Marseille. 87 pays représentés. Et pour la première fois, une 20aine de ministres étrangers de l'environnement se réunissent à Ajaccio pour parler protection des océans.
C'est quand même très fort, quoi. On a l'impression d'être en train de faire l'histoire, quand même. On parle aussi d'air protégé en haute mer, au-delà des juridictions nationales.
En moins de 10 ans, la France crée 8 parcs naturels marins, dont 6 en métropole. Et dans la foulée, plus de 200 sites Natura 2000, censés protéger des espèces ou des habitats. Mais il y a un hic. Aucune de ces zones, ou presque, n'interdit strictement la pêche, comme le promettaient les fameux 10% du Grenelle de la mer.
Il y a un certain nombre d'endroits identifiés comme nécessitant une protection plus forte. Et ça, ça n'avance pas. Peut-être qu'on n'a pas vraiment envie de le faire. Enfin.
Et pour cause, les pêcheurs français s'opposent à cette protection stricte intégrale.
Alors, on vient de l'entendre, là encore, la pêche française n'est pas absolument parfaite. Enfin, il y a beaucoup de choses dont on aura l'occasion de parler dans les mois qui viennent. Mais voilà, il y a quand même beaucoup encore à faire. Alors, par contre, l'aquaculture se différencie un peu de la pêche par l'intervention humaine, dans une partie où la totalité des étapes du site biologique, vous l'avez rappelé, et l'aquaculture marine actuelle rassemble des formes traditionnelles. On oublie parfois que la conchyliculture, par exemple, c'est de l'aquaculture. Oui. Voilà. Et il y a des élevages récents de poissons, de mollusques, de crevettes, d'algues. Alors j'ai entendu dire que si on n'avait pas, vous avez beaucoup évoqué les marchés, que si on n'atteignait pas justement les bons marchés en termes d'aquaculture, c'est parce qu'il y avait une pratique, et ça je l'ai entendu dans la bouche d'Ifremer, il y avait une pratique de l'aquaculture en France qui était de luxe. Justement, c'est-à-dire avec les huîtres, avec le saumon, etc. Donc, on n'était pas sur de l'aquaculture de base. Or, vous avez une opinion un peu différente. Vous pensez qu'on pourrait développer davantage l'aquaculture?
Oui, alors, les Français consomment 2 millions de tonnes à peu près et ils en produisent 700 000 tonnes. Dont une grande partie repart à l'exportation. Donc on importe pratiquement les 2/3 de ce qu'on consomme, pour faire simple. Et ça coûte cher, ça coûte à peu près 4 milliards d'euros. Donc vous voyez, c'est un poste déficitaire, c'est le 10e poste déficitaire de la balance des paiements française. Donc ce n'est pas un petit poste, on est dans le top 10. Hein. Donc vous voyez, c'est important à savoir. Alors on est un pays où on aime la gastronomie, donc les bonnes choses, donc souvent des top prédateurs comme on dit, hein, c'est-à-dire des animaux qui sont assez hauts dans la pyramide alimentaire. sauf les huîtres et les moules qui sont donc des brouteurs de plancton, donc ils sont tout à fait au démarrage.
Vous pensez aux homards et aux langoustes?
Alors les homards, c'est des crustacés, donc déjà ils sont plus hauts dans la pyramide alimentaire. Où le plus élevé, c'est le thon par exemple, hein, qui mange des moyens poissons, qui eux-mêmes mangent des petits poissons, qui eux-mêmes mangent du zooplancton, qui eux-mêmes mangent du phytoplancton. Donc voilà, il y a une pyramide avec beaucoup d'étages. Donc, à partir du moment où on apprécie des poissons, effectivement, qui sont des carnivores, eh bien, évidemment, ils vont peser plus lourd en termes de pression sur le milieu naturel. Quand vous mangez des carpes ou du tilapia, évidemment, c'est des poissons qui sont plus bas dans le niveau alimentaire.
Donc, alors, justement, la France s'y est mis un peu aux poissons de base, avec l'élevage du bar, l'élevage de la dorade, par exemple.
Alors, ce sont des carnivores, hein. Ce sont des prédateurs quand même. S'ils ont très bon goût, d'ailleurs, c'est aussi parce que c'est un peu des poissons de course. Hein, donc, des chasseurs, d'ailleurs, le bar, son autre nom en Atlantique, c'est le loup. Hein, donc, c'est pas des brouteurs. Donc, on a été capable de développer ces technologies et elles ont surtout été utilisées ailleurs. C'est-à-dire que, grosso modo, les écloseries françaises ont été copiées, exportées. On a formé pour ça beaucoup de gens en Grèce et en Turquie. Et le gros de la production de bar et de dorade aujourd'hui en Europe viennent de ces pays-là. Donc, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que finalement, on ne les produit pas en France? Parce qu'on n'a pas ni de volonté de le développer au niveau des espaces disponibles, ni en mer, ni à terre. Alors, il reste la solution l'industrialisation avec des usines, je dirais, donc, qui seraient spécialisées dans la production de poissons, comme c'est envisagé aujourd'hui à Boulogne ou à Bordeaux, avec des fermes de 10 000 tonnes de saumon. Mais ça fait penser à des méthodes de type la ferme des 1000 vaches, quoi. Donc, c'est des processus industriels à haute valeur capitalistique et très, très contrôlés. Et on se demande si c'est vraiment une voie d'avenir. Alors, c'est dommage parce que, par ailleurs, il y a des voies d'avenir, notamment au large. Je prends l'exemple des parcs éoliens marins qui vont couvrir des dizaines de kilomètres carrés pour chaque parc et pour lequel 1% de la surface est utilisée et un 1/10 du volume.
Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
On pourrait très bien imaginer d'installer des zones réservées à l'aquaculture, puisqu'il y aurait des systèmes d'ancrage, des systèmes de surveillance.
Mais quel type d'aquaculture? L'aquaculture en cage.
Alors, on pourrait mettre soit des filières de type conchyliculture, c'est-à-dire des huîtres, des moules dans des paniers, sur des filières suspendues, soit mettre des cages d'aquaculture avec des poissons dedans, comme on le voit pour les grandes cages à saumon ou à d'autres poissons en mer Égée, par exemple.
Et tout le travail qui est fait sur les récifs artificiels peut être utile pour l'aquaculture?
Alors, on pourrait imaginer effectivement mettre en dessous des cages des dispositifs de récifs artificiels permettant de recycler la matière organique qui tombe en pluie fine depuis les cages et de permettre le développement de
l'écosystème. Et qui nourrirait les poissons, enfin,
voilà, les poissons, les crustacés, les anémones, les étoiles de mer, enfin, tout un écosystème, pas seulement une partie des animaux. Donc là, c'est un vrai potentiel.
Alors, vous avez réfléchi également au fait qu'avec la montée des eaux, on va avoir un certain nombre de terres qui vont être abandonnées à cause de la salinisation. Et on pourrait gagner ces terres.
Voilà. À partir du moment où vous avez des zones basses, voire des zones déjà aménagées comme des rizières, qui sont salinisées à cause de la montée du niveau de la mer et de la raréfaction aussi de l'eau douce, il y a de moins en moins d'eau douce qui arrive depuis les bassins versants, eh bien, utiliser ces espaces-là pour faire de l'aquaculture d'eau saumâtre. Et de nombreuses espèces sont capables de vivre. La dorade, par exemple, et le bar aussi, un certain nombre de crevettes, acceptent assez facilement des variations de salinité. Elles ne sont pas strictement inféodées ou à la mer ou à l'eau douce.
On pourrait voir demain la Camargue passer du riz à la crevette.
Pourquoi pas, en faisant attention au fait qu'il ne faut pas... Le grand danger, c'est de vouloir industrialiser les processus, d'intensifier les méthodes et d'aboutir à ce moment-là à des aberrations qu'on ne rencontre pas dans la nature.
Mais oui, mais alors tout à l'heure, vous avez dit on ne peut rien faire non plus si on n'a pas de marché. Donc, alors, intensification ou pas?
Oui, alors ces surfaces peuvent être considérables. Il y a des milliers d'hectares qui potentiellement pourraient être utilisés et il ne serait pas nécessaire de faire des systèmes intensifs.
Bon, alors, on va bientôt, malheureusement, être obligé de rendre l'antenne, et c'est passionnant. Alors, je voudrais juste un petit mot sur Palavas. À Palavas, Yves Frémer fait de l'aquaculture, et on y élève aujourd'hui des tas de choses bizarres, même.
Alors, à Palavas, c'est une des stations d'Yves Frémer pour faire de la recherche et du développement au service du développement de l'aquaculture. Donc, on met au point, notamment, l'adaptation des espèces au changement climatique, notamment à des eaux plus acides, à des eaux plus chaudes. Et ça, c'est très important de conserver des filières en bon état avec ces modifications du milieu naturel.
Et on prévoit même de combler une demande du marché chinois avec les concombres de mer.
Et pourquoi pas ? Donc, il ne faut pas être fermé à des marchés exotiques mais inhabituels.
Alors, merci Denis. À bientôt, en tout cas, pour venir nous parler, parce que vous reviendrez pour nous parler des scénarios de prospective méditerranée. C'est promis. Alors, donc, on attendra le mois de janvier 2025. Au revoir à tous et à toutes. Bon week-end. Et la semaine prochaine, un plignocyste, un chercheur au CIRAD, viendra nous parler de son livre sur la forêt et les sociétés.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.